Je vous remercie de m'avoir invité pour cette matinée. Justement, cette invitation s'inscrit dans cette logique d'échange entre les églises France Mission et les différents collaborateurs. Je voudrais vous parler ce matin d'une notion qui apparaît très souvent dans la Bible et plus particulièrement donc dans le Nouveau Testament, où il est question de Jésus, et où il est question de la naissance des premières églises. Je voudrais vous parler de la notion des disciples et dire d'emblée que ce qui frappe lorsqu'on ouvre le Nouveau Testament, c'est que Jésus, le premier geste qu'il a fait, c'est en fait appeler des disciples, et le dernier geste qu'il a fait, c'est d'envoyer ses disciples jusqu'au bout du monde. On l'oublie parfois un peu, et pourtant c'est bien cet accent-là que Jésus choisit de donner d'emblée, et je voudrais donc lire deux passages, un qui se situe donc au tout début du ministère de Jésus, et un qui se situe tout à fait à la fin. Les deux tirés de l'évangile de Matthieu, donc Matthieu chapitre 4, c'est le moment où Jésus commence à apparaître publiquement, comme celui qui annonce la bonne nouvelle. Il avait vécu avant une trentaine d'années, mais il était connu par peu de gens et il n'avait pas de vie particulière. Il travaillait comme charpentier dans un village très, très modeste. Mais ici vient donc le moment où il apparaît publiquement. Le verset 16 donc, de Matthieu 4 nous explique que tout ça, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu, parce qu'il y a une citation d'un prophète qui dit « Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Donc d'abord, quand Jésus commence, c'est cela. C'est la lumière qui apparaît au milieu de l'ombre de la mort. Verset 17, à partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le règne des cieux est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançait un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appelle et aussitôt, ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. Donc Jésus apparaît, il est la lumière, cette lumière que le prophète Ésaïe avait annoncée 6 siècles avant. Jésus dit, avec ma venue, le royaume de Dieu vient, je viens là pour implanter le royaume de Dieu au milieu de ce royaume où il y a beaucoup de ténèbres, mais la lumière elle est plus forte. Et concrètement, pour faire cette mission-là, la première chose qu'il fait, c'est d'appeler des disciples. Faisons tout de suite un saut au tout dernier verset de l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 28. Donc Matthieu 28, à partir du verset 16. « Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus apporte la lumière dans sa personne, il est la lumière en personne, il apporte le royaume de Dieu, c'est-à-dire cette espèce d'avant-goût du ciel. Un jour, il n'y aura plus que le royaume de Dieu parce que le Seigneur va éliminer tout le mal. Et donc, déjà maintenant, commence à exister au milieu de ce monde le royaume de Dieu partout là où quelqu'un laisse régner Jésus. Si nous sommes chrétiens authentiques et nous laissons régner Jésus, nous sommes une petite parcelle du royaume. Actuellement, ce royaume, il est encore dispersé. Il est encore relativement modeste. Mais un jour, ça sera la seule réalité. Donc Jésus vient apporter la lumière, il vient apporter son royaume, et pour le faire, concrètement, il appelle des disciples, et à la fin, il mandate ses disciples à poursuivre cette mission. Je pense que nous sous-estimons parfois cette méthode de Jésus. Quand on interroge les personnes pour savoir ce qu'est une église, un certain nombre de personnes vont vous dire « mais c'est là où on se retrouve le dimanche matin à 10h30 et peut-être encore une ou deux fois par semaine pour les plus zélés ou ceux qui n'habitent pas trop loin ». On a même dans notre langage, je dirais, fait cette erreur, parler de l'église comme un bâtiment. Il n'en était rien au début dans la Bible. Après, je ne veux pas jouer sur les mots, mais simplement pour vous dire, l'église dans la Bible, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est la communauté des disciples. C'est le groupe des disciples. C'est des personnes. Alors après, voilà, soyons un peu indulgents par rapport à cet usage sémantique, mais quand même, il traduit peut-être qu'on a oublié de vue cette méthode de Jésus. La deuxième chose que je remarque souvent, c'est qu'il n'y a pas seulement cette confusion pour penser que l'Église, c'est un lieu qui est particulièrement béni. Alors, c'est un lieu qui est très, très utile et très sympathique, et on remercie le Seigneur d'avoir un abri, et évidemment, c'est très réjouissant de savoir que là, on va rencontrer d'autres chrétiens. Mais quand même, l'accent que Jésus met n'est pas là-dessus. Ça, c'est un côté, je dirais, qui vient se rajouter au niveau pratique. Le deuxième erreur que je vois aussi, c'est que pour beaucoup de gens, ils pensent que l'Église, c'est avant tout des réunions. L'Église, c'est avant tout des réunions organisées. C'est le culte, c'est les études bibliques, c'est les réunions de prière. Alors, loin de moi de dire que ce n'est pas important, que ce n'est pas utile, parce qu'on est des êtres humains et quand on veut se retrouver, mais à un moment donné, il faut s'organiser un petit peu. Et donc, on organise des réunions. Mais d'un point de vue biblique, Jésus ne met pas en place des bâtiments d'église, et Jésus ne met pas en place un système de réunion, mais quand il lance son royaume pour diffuser sa lumière dans le monde, afin que ce monde change, il commence par appeler des disciples. Et ensuite, il continue par envoyer ses disciples dans le monde. Donc vous me comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que se réunir comme vous le faites n'est pas bien, c'est très bien. Mais l'Église ne se résume pas à cela. Ce n'est même pas l'essentiel. Un bâtiment, c'est très bien, c'est très pratique. Mais l'Église ne se résume pas à cela. Ce n'est même pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que Jésus a fait en premier et en dernier, où il a dit, moi, j'apporte la lumière, j'apporte le royaume, et tout de suite, il appelle des disciples pour faire cela avec lui. Alors parlons un peu de la définition de ses disciples. Donc on va revenir à Matthieu 4. Donc Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit d'abord deux premiers frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançait un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Donc des gens tout à fait ordinaires qui font leur métier. J'ouvre tout de suite une parenthèse pour dire qu'on mettrait un mauvais accent sur ce texte si on pensait qu'un disciple, c'est quelqu'un qui quitte forcément le lieu où il habite et son métier. C'est pas l'accent qui est mis ici. D'ailleurs, certains d'entre eux ont plus tard continué leur métier. La question n'est pas là. La question, c'est de savoir qui suit qui. Et c'est pour ça que l'accent ici est si fort. Donc, Jésus passe, il voit ces hommes que lui connaît déjà. Et probablement, il avait même déjà discuté avec eux avant. Le texte ne nous dit pas tout. Mais ici, c'est le moment où il les appelle véritablement à le suivre. Ils étaient donc pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc dans cette phrase toute simple, il y a plusieurs choses très très intéressantes. Ça peut presque paraître banal, mais il faut les rappeler. Qui suit qui dans cette affaire? C'est bien Jésus qui propose la route, les choix. C'est sa volonté ici qui prime. Et les disciples entendent la voix de ce maître exigeant mais si bienveillant, le Dieu incarné en personne, dans un homme. Donc ils entendent cela et c'est eux qui changent de direction et c'est eux qui commencent à le suivre. J'ai parfois l'impression que certains parlent de Jésus un peu comme un copain, un ami, un soutien, parce qu'on sent qu'on est un peu trop seul dans notre vie, on a besoin de sa bénédiction, on a besoin de son aide. Nous, on a déjà tout notre planning, hein? On sait très bien ce qu'on veut faire, on a fait nos choix, on a nos idées, nous, on a l'impression que de ce côté-là, ça va bien. On sait très bien ce qu'on veut, et on a fait nos choix, on a notre orientation. Et on voudrait que Jésus vient en quelque sorte se rajouter, sans trop déranger d'ailleurs, il vient se rajouter pour bénir nos choix, pour bénir nos projets, pour bénir nos valeurs, ce qui nous semble à nous important. C'est quelque chose qui est ici d'emblée renversé. La question qui concerne quelqu'un qui veut être authentiquement un disciple, c'est pas tellement Jésus vient s'il te plaît exaucer mes prières et simplement me soutenir. Bien sûr que le Seigneur nous soutient et bien sûr que le Seigneur exauce nos prières. Mais la première chose qu'il faut entendre, c'est celle-là, où le Seigneur passe et nous appelle, chacun de nous, et dit « Viens et suis-moi ». Et c'est lui qui est devant, c'est lui qui dicte les choix qui sont de toute façon les meilleurs, qui sont bien meilleurs que les nôtres. C'est lui qui propose ses valeurs et c'est lui qui propose le projet. Et c'est très réjouissant ici de voir que ces hommes qui avaient leur occupation, qui avaient déjà leur vie, certains étaient mariés, certains avaient tout était planifié, organisé, ils entendent, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on doit déménager, quitter certains. Oui, certains doivent partir en mission. Mais ici, ce que je veux souligner, c'est ce qui met au centre de ces versets, c'est de dire, c'est le Seigneur qui est devant et le disciple est quelqu'un qui suit. Et la deuxième chose qui ressort très fortement dans ce passage, le Seigneur nous appelle à le suivre pour un but. Il annonce tout de suite la couleur. Un disciple, et ça caractérise même ce qu'est un disciple, c'est quelqu'un qui suit, suis-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alors ça leur a parlé, bien sûr, ici, parce qu'ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur montre que son ambition est beaucoup plus grande. Il est légitime et utile, et nous, on est content qu'il existe des pêcheurs qui nous ramènent du bon poisson. Donc tout ça n'est pas mis en cause. Mais il leur montre qu'il a une vocation bien plus élevée pour eux, qui se rajoute à leur quotidien et qui donne une orientation fondamentalement différente, ou dans le sens qu'il leur annonce « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Un disciple, c'est donc quelqu'un qui non seulement entend Jésus et le suit, s'engage à le suivre, mais c'est quelqu'un qui poursuit la mission avec Jésus. Jésus qui veut sauver le monde, qui veut que la lumière soit reconnue par le plus grand nombre possible, qui veut bâtir son royaume, Jésus le fait par l'intermédiaire des disciples. C'est quand même sidérant que ça ne vient pas 6 mois, 1 an, 2 ou 3 ans plus tard. On aurait pu penser que Jésus commence d'abord par leur dire « Maintenant, il faut avoir une formation très approfondie. Vous devez connaître l'Ancien Testament sur le bout des doigts et le Nouveau Testament par cœur, etc. » Bien sûr que c'est très important de connaître la Bible. Bien sûr, c'est important d'avoir une bonne formation. Mais ce qui est dit ici, c'est quand même autre chose. La formation est un outil pour nous nourrir. La connaissance de la Bible est là pour nous nourrir, pour éclairer notre chemin et pour nous équiper pour être un disciple. Mais ce n'est pas une fin en soi. La première chose qui est mentionnée ici, c'est l'obéissance. Viens, suis-moi et laisse-toi prendre dans cette mission du salut en faveur du monde. Jésus continue avec 2 autres, poursuivant son chemin, ce que nous lisons dans le verset 21, poursuivant son chemin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. À nouveau, tout à fait simple, le même appel. Et voyez-vous, 2000 ans après, c'est cela que nous devons entendre quand nous écoutons la volonté, quand nous voulons écouter la volonté de Dieu, quand nous lisons la Bible. L'Église, c'est une communauté de disciples. Et c'est là que l'affaire devient aussi individuelle. Comme je disais, il ne suffit pas de se retrouver dans un bâtiment, il ne suffit pas de suivre un programme. Tout ça, tant mieux que ça existe et c'est utile. Mais cette affaire, elle est beaucoup plus personnelle. Et ce matin aussi, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous pouvez répondre joyeusement « Oui, Seigneur, j'ai entendu ton appel et j'ai laissé tout tomber ». Encore une fois, on se comprend bien ce que je veux dire par là. Je laisse tomber mes propres ambitions, mes propres projets égoïstes parfois, un intérêt pour des choses finalement assez futiles. Je laisse tomber cela pour pouvoir te suivre, Seigneur. Mais pas seulement suivre dans le sens d'entendre les choses, pas seulement suivre dans le sens de vouloir être fidèle au programme de l'Église, mais être un véritable disciple qui fait d'autres disciples. C'est bien cela qui est dit ici, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Juste une remarque en passant. Dans le projet de Dieu, il n'était jamais prévu que le disciple travaille tout seul. Jésus n'a pas appelé des pêcheurs à la ligne, sans vouloir insister trop sur l'image, hein, ce n'est qu'une image, mais ils pêchent quand même ensemble avec le filet, parce que c'est aussi notre situation. On a besoin les uns des autres et beaucoup de choses, nous les faisons ensemble en tant que communauté de disciples, et c'est bien ainsi. À la fois, il y a un appel individuel, je viens de le dire à l'instant, où nous devons répondre à cette question, et je déjà accepté cet appel, et à la fois, il y a quelque chose de communautaire, et c'est là la beauté de l'Église, c'est une communauté de disciples qui tiennent aussi ensemble le filet, parce que pour une personne, ce serait un peu trop difficile. Et d'ailleurs, parfois, même une seule barque, une seule église locale ne suffit pas, si vous me permettez d'utiliser l'image ainsi. On vient de parler de l'union d'église, je crois que c'est important parfois que plusieurs barques se mettent côte à côte quand le filet est trop lourd à remonter, comme certains passages de l'évangile après nous le rappellent. Donc, un disciple suit son maître et poursuit sa mission. Je pense que c'est la définition la plus simple et la plus juste de ce qu'est un disciple. Et cela n'était pas aussi classique que ça, parce qu'il y avait à l'époque des maîtres juifs qui réunissaient aussi des disciples. Mais ces disciples n'étaient pas dans la même situation parce que les rabbis juifs qui avaient des disciples, ou pour certains, ils ne voulaient pas dévoiler leurs secrets, et donc le disciple ne pouvait pas aller bien loin, et il restait un disciple qui écoute, qui observe, mais comment voulez-vous qu'il puisse poursuivre la mission s'il n'est pas dans le secret ? Jésus dit, moi je vous traite comme mes amis, et parce qu'il nous a fait connaître par la parole sa volonté, parce que son appel est beaucoup plus noble, parce qu'il nous associe à sa mission. Il partage cette mission avec nous, il nous montre le chemin, et surtout il nous accorde son esprit, parce que sinon on serait démunis pour entrer dans cette mission. C'est pour ça qu'un disciple, c'est à la fois quelqu'un qui suit toute sa vie le Seigneur, mais c'est aussi quelqu'un qui, toute sa vie, transmet ce qu'il a reçu. Et dans ce sens-là, c'est un chemin où nous progressons aussi. Nous le suivons, j'espère, de plus en plus fidèlement. On a aussi besoin de nous encourager les uns les autres. Et j'espère que nous soyons aussi de plus en plus aptes à transmettre. Mais rien n'est dit ici, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes au bout d'une longue formation. La formation, ça vient se rajouter, mais la première chose qui est dite ici, c'est « je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et on comprend mieux cela quand on va donc vers Matthieu 28, et je voudrais encore faire quelques remarques complémentaires tirées de Matthieu 28. Encore une fois, je trouve ça extraordinaire, cet accent que Jésus met au début et à la fin. Et ça nous permet de comprendre aussi ce qui s'est passé pendant ces 3 ans. Finalement, ces 3 ans où les disciples étaient avec Jésus, où ils ont entendu ses paroles, ils ont prié avec lui et ils l'ont vu prier, et ils ont vu comment il annonçait l'évangile aux personnes qui n'avaient pas encore la foi, et il a vu comment il avait de l'amour, même pratique pour les personnes, en guérissant certains, en intervenant dans la vie de beaucoup. Et donc ces 3 ans, c'était une espèce d'apprentissage pour ses disciples. Et c'est ça la condition dans laquelle nous sommes. Nous avons d'emblée un appel extraordinaire. Jésus est avec ses disciples pour qu'eux-mêmes puissent poursuivre la mission. Et donc Matthieu 28... Au verset 18, Jésus leur dit, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Le disciple serait dans l'impossibilité de rester fidèle jusqu'au bout Le disciple, il serait dans l'impossibilité de participer à la mission de Jésus s'il n'avait pas d'abord, par le Saint-Esprit, reçu cette présence de Jésus dans son cœur et la force qui va avec. C'est pour ça que Jésus rappelle aux disciples un peu apeurés, et certains même encore un peu dans le doute à ce moment-là, il leur dit « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ». Donc le disciple, ce n'est pas un auto-entrepreneur. Hein. Il ne mène pas cette mission toute seule parce qu'il serait assez fort ou malin ou convaincu pour cela. Le disciple, c'est d'abord quelqu'un qui dépend du Seigneur, mais il dépend d'un Seigneur qui a tout pouvoir. Mais, tout de suite, voyez à nouveau le même accent qu'au début de son ministère. Jésus appelle, et là, il rappelle, vous recevez ma présence, moi qui ai tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Donc le disciple, c'est pas quelqu'un qui engrange seulement pour lui-même, mais le disciple est quelqu'un qui transmet. Dès la première heure, cela fait partie de la vocation du disciple. On ne peut pas être véritablement chrétien, c'est-à-dire un disciple de Jésus authentique, si on engrange seulement pour nous. Ce qui est prévu dans le plan de Dieu, c'est qu'on reçoive et qu'on donne. Le disciple est toujours invité à participer, à faire d'autres disciples. On n'a pas tous les mêmes dons, on n'est pas tous dans la même situation, mais je ne vois pas comment on peut être disciple sans être d'une façon ou d'une autre en train de faire d'autres disciples. C'est-à-dire tout simplement rendre un témoignage de notre foi et inviter d'autres aussi à connaître le Seigneur par nos gestes, par notre présence, par nos paroles aussi, lorsque cela est possible. Donc Jésus dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, on voit à nouveau cette dimension communautaire. Le disciple, ce n'est pas quelqu'un de tout seul, mais il vit en communauté de disciples. Et c'est le lieu aussi où on fait ces choses-là, qui ne sont donc pas simplement arrivées comme ça en cours de route, mais qui étaient prévues d'emblée par le Seigneur, parce qu'il sait que nous, on a besoin en tant que disciples de ne pas être seuls, mais de vivre en communauté de disciples. Et en tant que communauté de disciples, nous avons aussi une mission ensemble dans le monde dans lequel le Seigneur nous a placés. Donc il y a ici ces gestes que nous connaissons, du baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais regardez à nouveau l'accent qui est mis, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Parfois, certains pensent que le disciple, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses parce qu'il a étudié 10, 15, 20 ou 30 leçons du parfait disciple et avec tout ça, il devient un disciple. Ce qui est dit ici, c'est autre chose. C'est apprenez-leur à obéir. Alors après, évidemment, obéir pas à n'importe quoi, mais obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Donc on apprend à obéir à la parole de Dieu. Mais l'accent qui est mis, c'est d'abord « venez ». Suivez-moi, obéissez, entrez dans mon projet, dans ma volonté, ça sera le chemin le plus lumineux, le plus heureux, le plus épanouissant aussi pour vous. Et surtout, c'est le plan de Dieu que le disciple suive le Seigneur et lui-même participe à faire d'autres disciples parmi toutes les nations jusqu'au bout du monde, chacun de nous dans sa vocation personnelle, là où le Seigneur l'a placé. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et à nouveau, cette magnifique promesse, même si en faisant cela, parfois ça sera difficile, même si le résultat n'est pas toujours celui qu'on avait espéré, parce que tous ceux à qui on parle de l'Évangile ne répondent pas favorablement. Mais le Seigneur nous dit qu'on n'est pas mesuré en quelque sorte par le résultat, celui-là, in fine, lui appartient, mais ce qu'il nous demande, c'est de devenir des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire de permettre aux gens d'entrer dans cette communion avec Jésus. Et on a cette magnifique promesse, et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Je termine avec quelques remarques encore. Plus tard, et on le lit par exemple dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, au verset 18, Jésus précise encore les choses pour les disciples. Et il dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. » C'est la prière qu'il adresse au Père en faveur des disciples. Donc vous voyez, il y a un fil rouge qui traverse comme ça l'évangile, où ce disciple est amené donc à imiter le Seigneur et ainsi à apporter la lumière de l'évangile dans ce monde. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous ce matin pour vous encourager à vraiment considérer l'Église comme une communauté de disciples où d'abord chacun est invité à faire partie. Et là, c'est la question personnelle. Et ensuite, communautairement, où vous vous entraidiez à être des disciples qui suivent fidèlement le Seigneur, qui font des progrès dans l'obéissance, dans la fidélité. Mais ça inclut cette joyeuse activité de faire d'autres disciples afin que le royaume de Dieu grandisse. Amen. Merci.